Comment combattre le piratage des œuvres sur Internet avec Adopi? Adopi signifie Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Ces initiales apparaissent dans un projet de loi en stand-by à l'Assemblée nationale où l'on cherche à concilier la liberté d'accès à Internet et la liberté de créer pour les artistes. Adopi aura des pouvoirs de police et pourra, sous l'autorité d'un juge, suspendre votre abonnement Internet pendant un an. Au cas où vous seriez jugé fautif, il vous faudrait continuer à payer l'abonnement en plus de l'amende. On estime à 10 000 le nombre d'avertissements possibles chaque jour, par email d'abord, puis notification par huissier et courrier recommandé. En voulant stopper le téléchargement illégal avec une loi, n'est-on pas en train de monter une ligne Maginot ? L'idée de réprimer les pirates du net remonte à 2007 et au plan proposé par Denis Oliven, l'ex-patron de la FNAC, le vote de la loi par les députés est repoussé à septembre. Pour répondre à vos questions ce soir, Michel Thiolière, sénateur UMP, rapporteur du projet de loi Adopi au Sénat, bonsoir. Patrick Bloch, député PS, responsable du groupe socialiste à l'Assemblée sur ce projet de loi Création et Internet, bonsoir. Il va nous rejoindre. Jérémy Zimmermann, porte-parole de l'initiative citoyenne La Quadrature du Net. Bonsoir. Bernard Millet, président du directoire de la SACEM.
Bonsoir.
Philippe Couder, président de la FEPIA et fondateur de CD1D, une fédération de 100 labels indépendants. Bonsoir.
Bonsoir.
Le téléphone sonne.
Dans le monde entier, les jeunes sont accros aux nouveaux médias mais oublient souvent de passer à la caisse. Succès de YouTube, rien qu'en avril, 7 milliards de vidéos visionnées. On est devant une révolution, les internautes font valoir leurs droits et leurs libertés. Bernard Millet, c'est inquiétant la chute des ventes de musique et des recettes d'auteurs en France.
Mais globalement, entre 2002 et 2008, le chiffre d'affaires global de l'industrie du disque est passé de 1,3 milliard à 530 millions, soit une perte de plus de 770 millions. Quand dans le même temps, les revenus tirés de ce nouveau réseau de la toile d'Internet sont de 76 millions. Donc il y a eu une perte qui a à peine été compensée par moins de 10% du développement de ces nouveaux services. Dont on sait que aujourd'hui, les échanges sur Internet, hélas pour la plupart illicites, ont fait exploser la consommation de musique.
Alors comment réguler les flux informatiques face à la dématérialisation, à la disparition du support classique, le disque, DVD. Vous suggérez quoi, Jérémy Zimmermann, qui avait un très joli nom, votre initiative citoyenne, La Quadrature du Net, nous laisse entendre qu'il n'y a pas de solution.
C'est un petit peu ça. En réalité, la question qui convient de se poser en amont, c'est pourquoi réguler ? Et les chiffres que l'on entend sont souvent sortis du chapeau ou proviennent de l'industrie directement. Et personne n'a réussi à démontrer sérieusement, aucun économiste sérieux confirme que les baisses de chiffre d'affaires et les baisses de vente de disques seraient directement liées au partage d'œuvres entre particuliers à des fins non commerciales sur Internet. En réalité, il y a de nombreuses études qui prouvent le contraire, qui démontrent que les gens qui téléchargent le plus sont ceux qui achètent le plus. Une étude du gouvernement néerlandais démontre que le partage de fichiers serait bénéfique à l'économie de la culture dans son ensemble. Mais pour répondre à votre question, il faut remonter peut-être à l'ère de l'imprimerie. Quand l'imprimerie est arrivée et balayé le monopole des moines copistes, on a crié à la magie noire. On a eu cette tentation de vouloir réprimer, réguler. Et là, on se pose la question, peut-on réprimer, peut-on réguler? En réalité, Internet et les technologies numériques sont une gigantesque machine à copier. On a tous dans notre poche une machine à copier. Le coût de la copie est quasi nul et c'est pour le bénéfice de tous. C'est la plus formidable invention pour faire avancer la connaissance humaine qu'on ait eue de toute l'histoire de l'humanité. Donc, on va se dire, on va tenter d'empêcher la copie parce que des gens dont le métier est de vendre des copies en plastique sont pas contents.
Ça nous promet un joli débat et une première question de Saint-Étienne. Alain, bonsoir. Alain pose la question suivante. S'il est à Saint-Étienne, sur tous les fichiers qui tuent la création, on retrouve... Vous êtes là, Alain ?
Alain ?
On retrouve toujours les mêmes morceaux, juste pour une piste ou deux, écrit-il. Toujours les mêmes morceaux. On ne l'entend jamais dire combien touche un auteur par morceau, Bernard Millet.
Oh ben, c'est simple, puisqu'on dit toujours que ça coûte l'argent sur un téléchargement sur iTunes. 99 centimes d'euros, dont près de 20 centimes vont dans les poches de l'État. La TVA est à 19,5%, je le rappelle. Il y a 7 centimes d'euros qui vont aux vrais droits d'auteur, c'est-à-dire aux droits d'auteur à partager entre un auteur, un compositeur et leur éditeur. c'est-à-dire une somme minime qui est de l'ordre de 2 centimes d'euros qui vient à l'auteur quand il n'y a qu'un auteur. Aujourd'hui, sur les morceaux de rap ou de techno, vous pouvez avoir 10, 15, 20 co-auteurs sur la même œuvre.
Vous êtes en train de nous dire que si vous n'êtes pas une grande star, vous avez toutes les chances de ne pas vivre de votre métier.
Mais, c'est vrai pour tous les métiers artistiques, hein. C'est pas simplement vrai pour la musique, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour la littérature. Il y a beaucoup de créateurs, toujours peu d'élus. Quelque part, ceux qui sont élus servent aussi à dynamiser la machine, à faire en sorte que les producteurs puissent signer des jeunes auteurs en développement ou des artistes plus modestes. Tout se tient dans une économie. Et on ne peut pas opposer les plus riches aux plus faibles lorsque les gros maigrissent, les petits ou les maigres meurent.
Au Japon, les ventes de musique sur support classique se sont effondrées aussi, mais il se passe quelque chose là-bas. Le téléchargement légal commence à devenir la norme, à décoller. Frédéric Charles, et cela grâce aux portables des ados ?
Oui, plus de 90% des téléchargements de musique sont effectués depuis les mobiles qui servent de baladeurs au Japon. Sur les plateformes de services pour portables, la plupart des sites officiels listés par l'opérateur comme SoftBank sont payants, soit sur abonnement mensuel, soit à chaque achat. Et puis les Japonais se méfient des offres gratuites ou des logiciels de partage de fichiers parce qu'ils redoutent qu'ils soient contaminés de méchants virus. Pour les Japonais, le paiement d'œuvres en ligne, c'est aussi un gage de sécurité. Même les adolescents japonais ont peur du gendarme. Si un tiers d'entre eux avouent recourir parfois à des sites illégaux, faute de trouver la version autorisée du titre recherché, disent-ils. La fréquence d'utilisation de ces sites illégaux est faible. Elle est d'une chanson par mois.
Alors, on va écouter la question de Claude maintenant dans le Val-d'Oise. Claude ?
Oui, bonjour. Je pense que tout simplement, tout le monde serait d'accord pour payer 15 euros par mois et télécharger ce qu'on veut, et puis on n'en parle plus. Plutôt d'éternels débats, du flicage de mails, des frais d'envoi recommandés, encombrement des tribunaux, surtout que ceux qui se feront prendre seront les internautes du dimanche, mais pas les pirates professionnels, entre guillemets.
Alors, Michel Thiolière, est-ce qu'on a réfléchi à ça quand le projet est passé comme une lettre à la poste, le projet retoqué à la suite de l'observation du Conseil constitutionnel qui disait justement, et qui allait dans le sens de notre auditeur, hein, qui disait attention, pas de flicage, c'est-à-dire pas de sanctions.
Ben, notre auditeur a raison sur le principe, et d'ailleurs c'est une des questions fondamentales qu'on s'est posée au Sénat. Il faut un projet équilibré, donc il faut des solutions équilibrées. Dans le même temps où on veut limiter le piratage, il faut bien entendu que l'offre légale soit de qualité, économiquement à la portée de tout le monde, et qu'elle soit très diverse. Mais pour avoir une offre légale à 15 euros, comme le dit Claude au téléphone, il faut qu'on puisse endiguer le piratage. Il est évident que si vous avez du piratage, ça ne permet pas le développement de l'offre légale. Donc les deux vont de pair. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit ni plus ni moins de faire basculer une pratique qui est massivement illégale aujourd'hui, celle du piratage, vers une pratique qui sera demain massivement légale. Et la loi, qui est une loi pédagogique, permet d'accompagner ce mouvement de mutation, de bascule, entre une pratique aujourd'hui qui ne permet pas, comme le rappelait Bernard Millet tout à l'heure, de nourrir la culture et sa force dans notre pays, dont on a la chance d'être dans un grand pays de culture et de création artistique, mais il y a derrière les créateurs une industrie qui est aujourd'hui sacrifiée par le piratage, et donc de faire en sorte que cette industrie sacrifiée par le piratage, demain puisse se porter mieux, grâce à des offres légales, comme dit Claude, qui pourront permettre à tout un chacun d'aller sur Internet en respectant la création, et donc ceux qui travaillent, qui font un métier de création.
Et il y a urgence, aux États-Unis on vient de fermer tous les magasins de la chaîne de disques Tower Records, y compris celui de Sacramento, en Californie. Le premier ouvert a été le premier fermé. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on envisage de faire maintenant en Grande-Bretagne, Jacques Monin ? Une loi comme chez nous ?
Alors oui, la réflexion n'est pas très différente de celle qu'on a en France. Il y a un rapport qui a été fait il y a peu de temps et qui estime à 1 milliard d'euros environ la perte à cause de la piraterie en 2007. Là aussi, c'est vrai qu'on peut discuter sur les chiffres parce qu'on se demande si finalement ceux qui piratent achèteraient l'équivalent de ce qu'ils piratent. Enfin bon, cela dit, il y a deux fronts qui se déroulent sur en ce moment. Le premier, c'est un front des autorités, et là on rejoint un petit peu ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été remis récemment au ministre de la Culture qui préconise de créer créé une nouvelle agence de lutte contre la piraterie sur Internet qui aurait deux fonctions. La première, ce serait de contraindre les opérateurs à donner des informations, c'est-à-dire à dire qui pirate, comment pirate, etc. Et la deuxième, ça serait d'envoyer des lettres, tout simplement, aux pirates et aux familles, en utilisant aussi le levier des parents. Et on estime que dans 70% des cas, ça suffirait. Le deuxième stade serait effectivement de passer à la criminalisation de ceux qui piratent sur Internet. Mais alors là, sous quelle forme? Jusqu'où est-ce qu'on irait? Quels moyens on se donne? Est-ce qu'on aurait les moyens de le faire? Pour l'instant, on en est au stade du débat. Donc, dans les mois qui viennent, finalement, le débat Adopi va arriver en Grande-Bretagne.
Oui, vous allez avoir la même les mêmes protestations, sans doute.
Exactement, le même débat. Maintenant, on avance du côté, ça c'est le deuxième front, on avance du côté des entreprises, et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que des entreprises comme Universal, comme Virgin Media, enfin des majors, des maisons de disques, etc., qui il y a encore quelques années se disaient mais il n'y a aucun problème, on fera cesser tout ça et puis on s'en sortira comme ça, ont bien compris qu'il faut aussi qu'elles réadaptent leur offre. Et effectivement, là il y a un forfait de 15 à 20 euros mensuels qui va être mis en place par Virgin Media et Universal, et qui permettra à chacun de télécharger de manière illimitée, à condition où vous payez votre abonnement mensuel.
Ah, donc Claude Duval d'Oise a sa réponse, hein, en Angleterre, c'est fait, sa proposition.
Voilà, il y a aussi des initiatives privées qu'il y a eu. Hein. Rappelez-vous, Radiohead en 2007 a été un des premiers, un des précurseurs, à télécharger, a permis aux internautes de télécharger son album In Rainbows, qu'on ne trouvait pas à l'époque en CD, uniquement sur Internet, et c'était à l'internaute d'en fixer le prix. Donc on inventait finalement quelque chose de nouveau, et ça a été assez astucieux, puisqu'en un jour, Radiohead a récupéré plus de 7 millions d'euros comme ça.
Alors, Philippe Couder nous écoute, je crois qu'il est à Bordeaux, il représente des indépendants. Est-ce que ça peut marcher, là, ce système de forfait?
Est-ce que ça peut marcher? Je sais pas, je crois que... je voulais juste répondre à Jérémy Zimmermann, quand même.
Allez-y,
pour
lui
dire que, quand il s'interroge sur l'effet du piratage sur les ventes de disques, puisque moi je suis producteur de disques, je représente une centaine de labels qui se sont regroupés pour créer des outils. Depuis 2005 et l'émergence de la DSL en France, on a bien vu quand même que les ventes de disques, et nous on en souffre tous les jours, puisque nous sommes des petits producteurs qui donnons leur chance à des nouveaux artistes. Nous faisons des premiers, des deuxièmes, des troisièmes albums pour des artistes qui sont pas connus, mais qui peuvent être connus demain. Je veux citer par exemple Yann Tiersen ou des gens comme Dionysios qui ont démarré sur des labels indépendants, des producteurs indépendants. Et donc, vu depuis 2005, il est quand même clair qu'on a beaucoup de difficultés pour vendre du disque, et que, comme Berlamy l'a dit, ça n'a pas du tout été compensé par le numérique. Alors, quant à savoir, juste sur Radiohead, c'est facile de citer cet exemple-là. Ils sont juste super...
Bien sûr.
Super connus.
Oui, mais pour eux, c'est facile. Donc, vos indépendants à vous, c'est pas pareil.
Mais non. Nos indépendants, ils font ça, ils vont récolter 18 euros. Et avec ça, on ne fait rien. Donc, on est quand même obligé de réfléchir à ce problème de piratage, à ce problème de partage, au problème des libertés individuelles que peut effectivement soulever une loi comme Adopi. Mais quand même, il faut qu'on en arrive à trouver une solution de rémunération juste.
Oui, il faut bien manger quand on est artiste.
Il faut bien manger. Les 15 euros par mois, personnellement, je ne suis pas sûr que ça suffise. Il y a tellement de fichiers qui sont échangés. Comment on va évaluer ce qui va aller chez qui? Moi, j'ai peur que ça soit sous forme de sondage, et que, comme la copie privée actuellement, les plus gros, les plus connus touchent le plus, et les petits n'auront que des
miettes. Oui, c'est ça. Jacques Zimmermann, la remarque est juste.
Alors, bon, déjà, moi j'ai l'impression qu'en règle générale, les gens ont de moins en moins envie d'acheter des CD parce que la musique se consomme autrement, et ça fait partie des autres causes qui sont nécessairement à l'origine de la baisse du disque, mais c'est un autre débat. Tout le monde veut financer la création. Moi, je suis un grand musicophile devant l'éternel, cinéphile, je suis un grand amateur des arts, et j'ai envie de financer la création. La question, c'est, est-ce que, sous prétexte du financement de la création, on va porter atteinte aux libertés? Le Conseil constitutionnel a tranché. Quand j'entends Monsieur Thioler dire « cette loi est pédagogique », on disait ça de la précédente, le Conseil constitutionnel a quand même dit qu'elle était avant tout attentatoire aux libertés individuelles. Mais au moins, Monsieur Thioler, il faut vous reconnaître votre franchise, parce que vous l'avez dit. Cette loi, elle est pour sauver les industries, elle représente les intérêts des industries de la copie qui n'ont pas su s'adapter à cette nouvelle.
Jérémy,
Non, je vais juste vous dire, les modes de financement indirect de la création sont possibles, c'est l'histoire de ce forfait. C'est ce qu'on a fait accessoirement avec la radio, avec la copie privée sur les cassettes, les VHS, etc. Cette solution a systématiquement été écartée de la discussion des accords Oliven, a été écartée au Sénat, a été balayée d'un revers de main par les rapporteurs UMP à l'Assemblée nationale. Et donc, ces questions n'ont jamais
là,
été...
Voilà. On y va parce que ça continue. Pendant qu'on nous a dit qu'il y avait pause, time out jusqu'en septembre avant le vote, eh bien on continue à discuter, Patrick Gloche, vous êtes à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est Jean-François Copé qui a demandé une pause de réflexion jusqu'en septembre. Avec Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, vous allez sûrement revoir le texte. Hein. On va vers une troisième mouture de ce projet Hadopi. Sont déjà exclus du champ d'enquête les fichiers, l'examen des fichiers ou l'enquête concernant les fichiers dans les boîtes aux lettres électroniques. Mais vous mettez le doigt sur un certain nombre de points qui risquent d'être encore anticonstitutionnels. Comme quoi, par exemple?
Mais écoutez, moi, j'écoute votre échange depuis le début avec grand intérêt. Personne ne conteste, et en plus c'est ce qu'on se tue à se dire depuis 4 ans, depuis la précédente loi d'Avzi, qu'il faut de nouveaux modes de rémunération pour la culture qui soient adaptés aux réalités d'Internet. Et là, on est dans une logique absurde qui vise par une loi qui est devenue une loi présentée abusivement comme pédagogique au début, qui est maintenant un projet de loi qui a fait le choix du tout répressif après la censure du Conseil constitutionnel. Et nous considérons que c'est un pari perdu d'avance. C'est-à-dire que, vu où on en est aujourd'hui, et comme il faut toujours prendre la société et la réalité telle qu'elle est, on est dans l'idée qu'on va, par une loi, tenez-vous bien, bouleverser les comportements et les usages de 30 millions d'internautes en France et du coup les amener à cesser de télécharger illégalement pour se précipiter sur les sites de téléchargement commerciaux. Ce pari est perdu d'avance, il avait déjà été fait d'ailleurs il y a 3 ans sur l'AVSI qui n'a jamais été appliqué. Donc de ce fait, à mon avis, ce qu'il faut bien dire à ce moment du débat, au moment où vous évoquez effectivement le fait que le vote aura lieu en septembre, on ne sait pas d'ailleurs si la loi sera modifiée durant l'été, mais on va être dans une logique absurde parce que on va conduire à dire aux citoyens, voilà, une loi qui vous sanctionne et votée, qui sanctionne le téléchargement illégal, au moment même où on va leur dire, et puis parallèlement, on va vous taper à votre portefeuille parce qu'il faut rémunérer la création. Donc, c'est l'un ou l'autre, pas les deux.
Oui, mais écoutons la question de Christian à Montfort-l'Amaury. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci France Inter pour votre émission. Donc juste une petite remarque. Moi, ça fait 30 ans que je suis informaticien, donc le fait de repérer une adresse IP aujourd'hui, c'est relativement facile, mais il existe des tas de systèmes qui sont déjà opérationnels, ce qu'on appelle des proxys ou des reverse proxys, qui permettent de balayer tout contrôle sur votre adresse de la machine. Donc déjà, la loi est inapplicable techniquement. Aujourd'hui, elle est déjà techniquement inapplicable, et que, à mon avis, il vaudrait mieux mettre sur les fichiers téléchargés, le fichier des artistes, une clé, et on compte les clés, et puis on paye une taxe gentiment tous les mois avec son abonnement du net. Oui. Et puis on fait une licence globale. Oui. Ça, c'est techniquement viable. Aujourd'hui, ce qui a été choisi par le gouvernement, c'est quelque chose qui est obsolète et qui ne fonctionnera jamais.
Patrick Bloch, vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion? Oui, Patrick Bloch.
Oui, je suis toujours là.
Voilà.
Sûr.
La question de cet auditeur, c'est pourquoi ne pas comptabiliser, si vous voulez, au bout de chaque mois, la consommation de chacun, la consommation d'œuvres artistiques sur fichier.
Écoutez, on doit mettre en place, de notre point de vue, nous l'avons proposé il y a 4 ans, nous le reproposons aujourd'hui, un modèle économique nouveau qui permette à la fois à nos concitoyens de profiter des fantastiques moyens de diffusion de la culture et d'accès à la culture que présente Internet aujourd'hui. Ça bouleverse la diffusion culturelle. Et parallèlement, pour faire plaisir à Bernard Millet, parce qu'il représente des auteurs, des créateurs qui doivent être rémunérés, mettre en place des dispositifs de contribution créative. Alors, à partir de là, on est en discussion depuis déjà un bon bout de temps. Faut-il que tout le monde paye? Nous pensons que oui. Forfaitairement, nous le pensons aussi. Après, il y a la question de la répartition, qui est une question qui est toujours en discussion. Voilà. Nous avons des réponses, à notre avis, qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, à travers la contribution créative, prêtes pour la musique. Pour le cinéma, c'est une autre question, et de toute façon, c'est une économie différente. Et le cinéma, rappelons-le, en France, est aidé contrairement au secteur de la musique. Voilà. J'ai vu que la SACEM bougeait, discutait avec les FAI. Bon. Mais, si vous voulez, on nous dit maintenant, attendez que Hadopi soit voté pour passer à ce stade ultérieur. Nous disons, arrêtons Hadopi, c'est une fausse route, c'est une mauvaise solution, la sanction est illusoire paraît en plus injuste. Elle menace le fait qu'avec Internet, on puisse exercer sa liberté d'expression et de communication. C'est le cœur même de la censure du Conseil constitutionnel. Abandonnons tout ça. Mettons-nous autour d'une table et mettons en place un nouveau modèle économique qui rassemble les internautes et les créateurs et qui ne les épouse pas stérilement.
Alors Bernard Miège, je crois que c'est aussi une proposition qui est contenue et qui a été faite par Philippe Couder qui nous écoutait tout à l'heure. C'est-à-dire que la SACEM doit revoir sa manière de percevoir. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que ce système est possible?
La SACEM perçoit très simplement vis-à-vis de tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'elle offre une autorisation à n'importe quel exploitant qui peut puiser dans le répertoire mondial sans aucun problème, moyennant une rémunération simple. Je vous disais 7 centimes. Mais pour répondre à Patrick Bloch, il sait bien, c'est des contradictions dans lesquelles chacun, et notamment à Patrick Bloch, ses collègues se sont trouvés au moment de la loi d'Absi. On veut faire comme si le problème ne concernait que la musique. Et Patrick Bloch vient de dire, mais pour le cinéma, c'est différent. Mais le problème du contrôle, du filtrage, du flicage, comme on dit, va se poser pour le cinéma, pour la littérature, pour la presse, pour les jeux vidéo. Donc, revient en boomerang tout le problème des libertés publiques, parce qu'on fait mine de croire que ça ne s'applique qu'à la musique. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou le problème est un problème qui touche tous les biens dématérialisables, que ce soit de l'audiovisuel, de la fiction, du cinéma, de la littérature, de la presse, du jeu vidéo ou de la musique, mais se dire qu'on va se débarrasser du problème des libertés publiques en mettant simplement une rémunération sur la musique, c'est voir le problème revenir en boomerang. Et puis, il y a toute une série d'autres problèmes économiques que je serai prêt à aborder.
Oui, oui. Alors, Philippe Couder, dans la lettre, je crois que vous avez envoyé à la SACEM, vous dites aussi, pourquoi pas une redevance auprès des fournisseurs d'accès Internet, c'est ça?
Mais nous pensons que, en fait, le débat doit mettre à plat toute la filière qui concerne la musique enregistrée. Parce que là, on ne parle que du numérique, mais il faudrait parler également du physique, qui, soit dit en passant, représente toujours 90% du marché, donc il n'a pas disparu, comme nous l'a dit, pendant X années. Il existe toujours, il reste toujours la source de revenus principale des producteurs, indépendants et aussi des gros, mais surtout indépendants, parce que c'est ceci que je représente. Donc nous, c'est ce que nous faisons au sein de la FEPIA, la Fédération des labels de la région Aquitaine, avec l'aide de la région Aquitaine et du conseiller régional Frédéric Villicoque. Nous travaillons à la fois sur le physique, nous allons mettre du disque chez des libraires, dans des salles de concert, travailler avec les médiathèques, nous allons créer des nouveaux disquaires avec l'aide de Calif.
C'est ce que vous dites. Hein.
Nous voulons aussi parler avec la SACEM, elle doit aussi évoluer, à savoir évoluer envers les autres productions qui payent aujourd'hui extrêmement cher le fait d'autoproduire leurs disques.
Oui, c'est ce que vous dites. Hein, la musique, le produit culturel, c'est pas un baril de lessive. Hein, c'est ce que vous dites. On doit pouvoir vendre ça.
Exactement, c'est pas un baril de lessive. C'est que dans tout ce débat, on a juste oublié une chose, c'est que on parle d'une œuvre artistique et un album, un disque, de la musique, c'est une œuvre artistique. Et avec Internet, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été imposées à l'artiste, comme le prix lui a été imposé, comme ce que j'appelle la vente par appartement lui a été imposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste qui considère avoir fait un album de 10 chansons qui représente un tout cohérent n'a pas le droit de ne vendre que ces 10 chansons d'un bloc. On est obligé de les vendre une par une. Bon, par exemple, voilà, on a oublié tout un tas de choses. Et je crois que la seule solution pour sortir de ce débat stérile qui, depuis des années, paralyse toute réflexion et toute dynamique. Parce que d'un côté, on a les majeures compagnies, pour résumer, qui font tout et leur contraire. De l'autre côté, on a une opposition, des internautes qui ont du mal à comprendre comment fonctionne aussi le monde de la musique. Et personne ne se parle plus, personne ne s'écoute. Et je crois que il faudrait profiter du fait que cette loi soit repoussée jusqu'au mois de septembre pour essayer de se mettre tous autour d'une table et parler de mais tout ce qui concerne la musique. Et j'irai même jusqu'au statut des bars-concerts, parce qu'il y a aussi des législations qui empêchent les jeunes artistes de jouer dans des bars-concerts. Il y a beaucoup de choses à discuter pour mettre une cohérence, car quand on veut parler de créer une nouvelle économie, Cette nouvelle économie, si la solution existait, on l'aurait trouvée.
D'accord.
Donc il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions. Et ça doit embrasser l'ensemble du champ de la filière de la musique enregistrée.
Donc on va dans les Alpes-Maritimes où nous attend Alain. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vu que la question des forfaits a été déjà largement abordée, je ne vais pas m'y attarder. Non, simplement, j'avais donc une question éventuellement de substitution. Voilà, moi je n'ai jamais entendu AC/DC ou U2 se plaindre de leur vente d'albums. Il n'y a bien qu'en France que j'entends ça. Et je souligne par la même occasion que certains artistes français ont pris prétexte de la chute des ventes pour quintupler le prix des places de concert. Voilà, donc c'est peut-être de ce côté-là aussi qu'il faudrait chercher les vrais coupables.
D'accord, alors on va d'abord se tourner vers Bernard Millet, parce que ça me fait penser immédiatement à Madonna, ça, qui fait maintenant plus sa promotion à travers les concerts payants qu'à travers sa maison de disques.
Non mais c'est l'un des problèmes qu'il faut véritablement évoquer. La chute du marché du disque fait que les grandes stars internationales tournent plus et essayent de compenser sur le spectacle vivant, etc. Mais quel est l'effet? Parce qu'on va nous dire, globalement, la musique, finalement, le spectacle vivant se porte bien. C'est pas ça. C'est quelques grandes stars américaines qui profitent du système. C'est quelques grandes stars américaines sur des prix qui augmentent. Et il y a des difficultés qui commencent à être plus réelles pour l'ensemble des autres tournées, pour des artistes plus modestes.
Oui, c'est ça.
Parce que les chiffres, malgré l'augmentation des salaires, Madonna remplit le Stade de France, U2 remplit le Stade de France.
Le boss à Caresse.
Pour les autres concerts, c'est aujourd'hui plus difficile, ah, et notamment pour les artistes plus modestes.
Oui, tout le monde ne peut pas toucher le million d'euros de Caresse. Hein.
Le nombre de salles, petites ou microscopiques, Jérémy Zimmermann. Le nombre de salles petites ou microscopiques dans lesquelles fleurissent des concerts est en train d'exploser. Le spectacle vivant se porte très bien, au même titre que le film en salle se porte très bien. Et on a vu que les films les plus téléchargés étaient ceux qui généraient le plus d'entrées en salle. Et on parlait tout à l'heure du jeu vidéo. Le jeu vidéo fait maintenant 4 fois plus que le film, et c'est une économie qui s'est bâti sur le fait que tout le monde l'a copié, tout le monde a toujours copié le jeu vidéo. Donc il faut arrêter avec ça. En réalité, le problème pour les artistes,
vous regardez les chiffres réels, et notamment les chiffres de concerts que nous aurons à la fin de l'année, et vous verrez ce qu'est le résultat.
Oui, d'accord. Ben écoute, on en parlera
voilà,
ce moment-là.
Mais nous, on a les chiffres.
En réalité, cette loi et ces dispositifs, ces espèces d'usines à gaz répressives dans lesquelles des innocents sont forcément condamnés, ne vont rien régler.
On peut pas
problème
laisser,
des
on peut
artistes.
Pas
mais
dire
si,
ça,
si, je le dis. Je le dis. On le démontre.
On va pas régler le débat.
Mais je crois qu'il faut quand même régler leur contrat d'édition aujourd'hui. Les contrats qu'ont les artistes avec leurs producteurs, c'est là qu'est le vrai scandale.
Laissez
dire n'importe quoi sur ce sujet. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde semble d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a un nouveau modèle économique à inventer.
Alors arrêtez la répression.
Alors admettons que vous ayez raison, ça veut dire que vous allez au supermarché, vous mettez une file dans laquelle vous passez votre caddie sans payer, et à côté vous dites il y a un nouvel mode économique qui se monte, mais là il faudra
comparer
payer.
Comparer Internet à un supermarché, vous n'avez rien compris Internet, monsieur. Vous ne savez pas ce qu'est Internet.
Monsieur Zimmermann, restez calme.
Vous ne savez pas ce qu'est Internet.
Restez
nous nous en servons tous les jours.
Restez aussi zen que le monde d'Internet.
Je vais copier un million de boîtes de petits pois en une seconde, en un clic.
J'imagine que vous avez besoin de gagner votre vie chaque mois pour nourrir les vôtres, et c'est le cas de tous ceux qui travaillent dans l'économie, la création.
Je le fais parfois,
tout à l'heure, vous
le
faites comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais il y a des gens aujourd'hui qui souffrent d'une double peine, c'est un mot qui a souvent été utilisé dans le domaine de la création. La première peine, c'est la crise économique qui touche tout le monde, et la deuxième peine, c'est le piratage. Et je ne connais aucun secteur économique en difficulté aujourd'hui qui soit abandonné par les pouvoirs publics. Alors, vous avez le droit de dire qu'on n'en a rien à faire de ces gens-là qui ne vendent plus des CD dans les Fnac ou dans les Virgin, qu'on n'a plus rien à faire des gens qui travaillent dans le monde du cinéma. Vous avez peut-être le droit de le dire, mais notre responsabilité publique, c'est d'affirmer que nous avons un devoir national de soutien à la création, parce que nous sommes un grand pays de création, et que la création porte une économie, et que des 2,4% de notre population aujourd'hui travaillent dans le domaine de la
création. Michel Thiolière, on va pas retourner à l'Assemblée avec Patrick Loche qui nous attend. Patrick Loche, je crois que cet auditeur, bon, se plaint vraiment de la tournure, disons, liberticide du projet Adopi. Il y a eu hier ce très bel exemple de ce qu'il faut pas faire. Et c'était dans la bouche de Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture. Il dit, faut pas punir la grand-mère qui arrose les coquelicots de son petit-fils sans savoir que c'est du hashish. Alors, on a effectivement peur que les sanctions visent les mauvaises personnes.
Mais évidemment que les sanctions viseront les mauvaises personnes, bien entendu. Il y a ce délit insensé de négligence caractérisée. Tenez-vous bien, à partir du moment où vous n'aurez pas surveillé suffisamment votre connexion Internet, ou au besoin que vous aurez un moyen de sécurisation qui ne sera pas efficace, eh bien vous allez risquer une contravention, comme on dit, de cinquième classe et une suspension de votre connexion à Internet jusqu'à un mois. C'est insensé. Ça montre bien par rapport, et je rebondis sur ce que disait Michel Tollière, à partir du moment où nous avons un devoir national, et nous le partageons en tant que socialistes, de rémunérer la création, eh bien, considérons enfin qu'avec Hadopi, nous avons une mauvaise réponse, parce que c'est une réponse pénale. Je rappelle qu'Hadopi ne rapportera pas un euro de plus à la création. Il faut tout simplement prendre en compte le fait qu'il faut un modèle économique nouveau.
Attendez,
le droit
Jack,
d'auteur...
Jack Lang est pour. Hein. Jack Lang est pour. Hein.
Mais Jack Lang a su, à son époque, ça date d'il y a 25 ans, effectivement faire voter une loi qui réformait, qui modifiait le droit d'auteur, qui adaptait le droit d'auteur, il l'a fait voter à l'unanimité du Parlement. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette loi n'était pas une loi répressive et qu'elle mettait en place des nouveaux modes de rémunération. C'est ce que nous nous tenons à dire dans l'hémicycle depuis des mois et même des années si on part de d'avis. Il faut redistribuer l'argent. Les possesseurs de tuyaux, les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs télécoms sont évidemment les grands gagnants financièrement du développement de l'Internet. Donc il faut rémunérer ce qui passe dans les tuyaux, c'est-à-dire les contenus. Et je regrette d'ailleurs que nous ayons été si peu à protester à l'automne dernier au moment de la réforme de l'audiovisuel quand pour la première fois on a ponctionné les FAI, les opérateurs télécoms, 360 millions d'euros, ce n'est pas rien, et qu'au lieu que ça aille à la création, c'est aller au budget de France Télévisions pour compenser le manque à gagner publicitaire.
Qu'est-ce que vous a dit Frédéric Mitterrand, parce que finalement vous êtes allé le voir, alors vous êtes tombé d'accord sur quoi ?
Ben, on est tombé d'accord sur pas grand. Enfin, on est tombé d'accord sur son fameux troisième volet. Mais si vous voulez, il nous dit le préalable, c'est d'abord qu'on vote Hadopi. Et nous disons pas d'accord. Nos concitoyens n'accepteront jamais de se retrouver dans une situation qui les amène à vivre dans une insécurité juridique permanente et de se voir adresser du jour au lendemain au mieux un mail d'avertissement, au pire une recommandation ou surtout d'être sanctionné par un juge, puisque c'est ce que nous avons obtenu du Conseil constitutionnel. Pour négligence caractérisée, tout simplement parce qu'on aura piraté leur connexion Internet, ou parce que, effectivement, l'adresse IP, comme l'a dit Jeremy Zimmerman, n'authentifie pas, effectivement, celui qui télécharge illégalement. C'est-à-dire que les professionnels du téléchargement illégal, ceux qui en tirent un revenu, passeront à travers les mailles du filet, et c'est le pauvre citoyen lambda qui va se faire sanctionner. En un mot, c'est tout faux. Et c'est ce que nous avons dit à Frédéric Mitterrand, arrêtez ce projet de loi qui ne sert à rien, un moratoire sur Hadopi, et mettons-nous tous autour d'une table pour aborder les vraies questions, c'est comment on rémunère la création à l'ère d'Internet.
D'accord. Rubin Steiner, vous faites de la musique à la maison, vous, dans votre home studio. Vous avez été nominé aux Victoires de la musique pour l'album Drum Major, sorti en 2006. Alors, vous en avez vendu combien et comment vous faites pour assurer le financement du prochain voilà, parce que autrement dit, est-ce que vous gagnez votre pain, quoi?
Alors moi je gagne mon pain mais de manière presque incroyable dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que des disques j'en ai fait 5 ou 6 albums et on va dire que ça se vend en moyenne à 10 000 exemplaires, peut-être 20 000 dans le monde, ce qui ne suffit pas pour vivre évidemment. Moi c'est les concerts qui me permettent de vivre, les cachets plus l'intermittence. Et après, quelques bouts de droits d'auteur qui, sur des synchros, sur des pubs, enfin, c'est arrivé qu'une fois, mais voilà, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Je suis au SMIC+, plus, on va dire, depuis 10 ans, mais je m'en conviens très bien. Enfin, pour le moment, ça m'empêche pas d'être content de faire de la musique et de télécharger illégalement plein de choses sur Internet.
Voilà, Jérémy Zimmerman. Alors,
Monsieur Steiner, il faut que je vous dise que je vous ai téléchargé et que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et j'irai vous voir au concert sans hésiter. Mais je ne peux pas m'empêcher de bouillir quand j'entends Michel Tiolière comparer Internet à un supermarché. On a entendu parler de l'autoroute, du plan de cannabis, des hooligans et des choses comme ça. Et
mais
ça,
vous me promettez de l'écouter.
Je promets d'écouter. Et ça révèle
ça va être dur.
Ça révèle une méconnaissance profonde des technologies de la part du législateur et de la majorité UMP. En réalité, cette industrie que l'on tente à protéger d'une façon complètement illusoire, c'est elle qui depuis si longtemps exploite les artistes par des contrats d'édition qui leur font toucher des miettes. Et il faut regarder les chiffres sur 20 ans. Depuis les années 80, l'industrie du disque s'est absolument gavée et les artistes ont touché de moins en moins. Et c'est là qu'est le réel problème, c'est dans leurs contrats. Et tout ce qu'on va faire, c'est pour ces industries, faire une usine à gaz qui porte atteinte aux libertés individuelles. Et c'est ce même gouvernement qui, par ailleurs, détruit le régime des intermittents du spectacle, qui était une des principales sources de financement de nombre d'artistes aujourd'hui. Alors, on se moque du monde.
Cher monsieur Zimmermann, ne vous emportez pas sur des sujets qui sont éloignés de ce qu'on est en train de débattre. Il y a la musique, il y a le cinéma, il y a les logiciels, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il n'y a pas que la musique. Et malheureusement, ce sont des secteurs importants pour l'économie de notre pays.
Et le Sénat retrouvera aussi le texte qui
bien
va
sûr,
à l'Assemblée.
On retrouvera après
et pour la commission et pour la société, pour
nos émotions. Après que nos collègues députés auront débattu. Ce que je voudrais surtout dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout l'avenir de la création, qui est à mettre en œuvre, parce qu'effectivement Internet est une donne nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'aujourd'hui, ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas une prise de conscience de nos concitoyens, et cette prise de conscience de nos concitoyens, elle passe effectivement par des avertissements. Et je suis de ce point de vue-là assez rassuré, puisqu'il y a quelques mois quand même qu'on travaille sur ce texte, et je vois le changement de nature du débat d'ailleurs. Il y a quelques mois, on n'aurait pas eu de débat comme on en a ce soir. On parle aujourd'hui de l'avenir de la création, parce que tout le monde sent bien qu'il y a un problème réel. Il y a quelques mois, on ne parlait pas de la même manière. Ce qui est intervenu entre-temps, c'est que finalement, nos concitoyens ont pris conscience d'une chose, c'est que Internet, c'est un monde merveilleux, sur lequel on va trouver des choses extraordinaires, mais qu'il y a aussi besoin de nourrir Internet, et que cette nourriture, eh bien, il faut la produire, et donc il faut la rémunérer. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, il faut cette pédagogie qui permette d'alerter. Et là, de ce point de vue-là, je suis assez rassuré. Quand on voit ce que notre pays est capable de faire en termes de sécurité routière, en termes de santé publique, on est aussi capable de le faire dans le domaine de la santé. On est capable de faire évoluer les mentalités.
Autrement dit, plus de régulation
dans un monde. Et faire en sorte que chacun comprenne. Vous savez, l'autre jour, j'avais en face de moi un homme d'un certain âge qui me disait, mon petit-fils télécharge, qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il évite de télécharger? Je lui dis tout simplement que demain il aura peut-être un métier dans le monde de la création et qu'il sera tout à fait heureux de pouvoir être rémunéré pour ce qu'il fait.
Juste avant de retourner à l'Assemblée nationale et à Patrick Deutsch, une question d'Olivier à Palaiseau.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie de prendre la question. Je voudrais donc, apparemment, elle a été à moitié posée il y a quelques minutes, mais malheureusement, j'ai pas entendu la réponse détaillée.
Patrick Deutsch va revenir dessus. Allez-y.
C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur de bonne foi d'Internet, je crois savoir que c'est extrêmement facile de se faire pirater sa connexion Wi-Fi par son voisin. Et à partir de là, ça, techniquement, je crois que personne ne va s'opposer à ce point. Par contre, il y a un point de droit, c'est que à partir de là, apparemment, d'après ce que j'en sais, c'est à vous de faire preuve de votre bonne foi. Et c'est-à-dire qu'on est présumé coupable, alors que je pensais que dans notre pays, c'était plutôt la présomption d'innocence qui avait cours. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur cet aspect qui semble très inquiétant?
Justement, ça fait partie des points qui ont été désignés par Patrick Bloch sur qu'est-ce qui pourrait ne pas passer le Conseil constitutionnel cette fois.
Mais écoutez, merci de nous ramener à la réalité d'un débat qui va se poursuivre en séance de nuit à l'Assemblée nationale tout à l'heure. La question qui vient d'être posée est la bonne question. On peut très facilement se faire pirater sa connexion Internet. L'adresse IP n'est pas le moyen parfait d'identifier l'abonné qui peut potentiellement télécharger illégalement. C'est-à-dire que pour faire court, n'importe quel des 30 millions d'internautes que compte aujourd'hui la France peut se retrouver incriminé avec au-dessus de sa tête, tenez-vous bien, une quintuple peine. Il peut être donc sur le délit de contrefaçon être pénalisé jusqu'à 300 000 euros d'amende, jusqu'à 3 ans de prison. Il risque une suspension de sa connexion Internet jusqu'à un an. Il devra néanmoins continuer à payer son abonnement. Et enfin, Monsieur Millet pourra toujours continuer à lui réclamer des dommages et intérêts. C'est ce que nous appelons la quintuple peine. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est en cela que nous serons amenés, évidemment, à ressaisir le Conseil constitutionnel, parce que nous considérons que le principe de présomption d'innocence n'est pas respecté par ce nouveau projet de loi.
Débat de nuit, et combien de députés de la majorité?
Il y a des députés de la majorité, comme vous le savez, qui sont contre ce projet de loi, qui sont lucides, qui savent que l'avenir est à une autre solution. Et en l'occurrence, vous avez un hémicycle bien fourni, avec de bons débats, et nous sommes exactement, ça c'est pour Monsieur Tollière et Monsieur Millet, à l'article 1er taire. C'est-à-dire que nous sommes loin d'avoir terminé l'examen
de
ce projet.
On a presque fini. Juste Laurent qui disait ceci. Je suis administrateur système et réseau. Il est en Poitou-Charentes. Loi inapplicable. D'autre part, cela condamne les gens qui ont été piratés. On ferait mieux de réfléchir à d'autres manières de rémunérer les artistes. Qui a techniquement envisagé cette loi? Bonsoir.